Aujourd'hui, maman et son invité vont vous parler de langage.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des futurs parents et des jeunes parents. Aujourd'hui, nous allons parler acquisition et développement du langage chez nos chers bambins. Je reçois aujourd'hui Idil Zouba qui est orthophoniste et qui va nous expliquer ce qu'est le langage, quelles sont les différentes étapes qui vont mener à ce fameux langage, comment le favoriser, comment favoriser son bon développement et à contrario ce qui peut gêner cette acquisition. Elle va aussi nous expliquer quand s'inquiéter si la prononciation de notre enfant n'est pas correcte. Et nous ferons un petit point sur le cas particulier du bilinguisme. Bonne écoute.
Déjà, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est chez toi pour cet épisode. On va commencer tout simplement en te demandant qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours professionnel et puis ce qui t'amène un petit peu aujourd'hui finalement ici.
Bonjour à toutes et à tous aussi. Donc, je suis Idil Zouba, orthophoniste actuellement à la Maison de Santé Pluridisciplinaire Pédiatrique dans le 93. J'exerce dans cette maison de santé depuis 2020. C'était un réel choix pour moi de rentrer dans une équipe pluridisciplinaire parce qu'en fait, en libéral, c'est assez compliqué d'être orthophoniste, je trouve. On est très vite isolé et pour prendre en soin correctement les petits patients, c'est pas toujours évident. Avant cela, j'ai travaillé en libéral sur Paris. Je suis diplômée de 2015 à l'Université de Liège en Belgique. Avant ça, j'ai un diplôme en Master 2 de linguistique, de sciences du langage, à l'Université de la Sorbonne, La Nouvelle. Voilà pour mon parcours.
Ok, donc aujourd'hui, on va parler donc du langage. Déjà, qu'est-ce que ça signifie, le langage ? Parce que je pense que la plupart des gens pensent langage, ça veut dire parler, mais c'est peut-être pas que ça. Donc en orthophonie, voilà, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de langage d'un point de vue global ?
Alors si je devais définir ce qu'est le langage, je te dirais, Alix, que c'est un système de communication. Voilà, mais qui va passer par différents canaux. Donc un système de signes, qui peut être un système de signes oral, gestuel, graphique, etc., tactile. Par exemple, un système de signes tactiles, ce serait le morse. Un système de signes visuels, ce serait la langue des signes française, la LSF. Un système de signes graphiques, ce serait l'écrit. Voilà. Et puis, il y a le langage oral qu'on utilise là actuellement. Donc, c'est un système de communication. Alors, en orthophonie, on considère en fait que le mot langage signifie le système de communication qu'on aurait stocké en mémoire. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour expliquer globalement, c'est ça. Et puis, pour peut-être un peu préciser les choses, la production orale du langage, c'est ce que nous, on va appeler la parole. Donc, la parole, communément, ce que les gens vont appeler l'articulation. Voilà, donc c'est vraiment la réalisation motrice des sons de la parole. Là, on appelle ça la parole, l'articulation. Mais le langage en tant que tel, c'est vraiment ce qui est stocké au niveau cérébral.
Oui, donc c'est plus complexe que juste de parler.
Exactement.
Quand on parle. Enfin, dans le développement de l'enfant, on a plutôt l'impression que c'est juste la parole, alors qu'en fait, c'est...
C'est bien plus complexe que ça, oui, exactement. Et puis finalement, ça veut aussi dire qu'un enfant sourd qui apprendrait la langue des signes est un enfant aussi qui apprend du langage, parce qu'en fait, il apprend un système de communication qui a toutes ses complexités. Attention, la langue des signes, par exemple, ce n'est pas ce qu'on appelle les baby signs. Le baby sign va prendre juste... quelques mots de la langue des signes pour un peu appuyer le développement langagier de l'enfant. Maintenant, c'est pas une langue structurée, le baby sign.
C'est juste un peu isolé.
Exactement.
Pour essayer de se faire comprendre.
Tout à fait. Exactement. C'est comme si vous alliez à l'étranger, je sais pas moi, au Japon, et que vous connaissez 3-4 mots, et qu'avec ces 3-4 mots, vous vous débrouillez pour manger, trouver des toilettes.
Vous voyez, vraiment des trucs très très complets.
Exactement. Mais sinon, la langue des signes française, c'est un vrai langage.
La langue des signes bébé, je sais qu'on voit sur des petits signes, c'est très pratique. Mais effectivement, c'est juste un mot par un mot et c'est juste histoire de faire comprendre une idée, enfin que l'enfant puisse exprimer un besoin un peu isolé,
oui.
Quoi, en fait.
C'est pour l'aider finalement à faire sa demande, peut-être diminuer les frustrations. Et surtout, c'est un vrai tremplin au langage oral. Hein. Pour le coup, ça va vraiment renforcer l'entrée dans le langage.
Oui, ça retarde pas.
Ça ne retarde pas. C'est souvent une question qui m'est posée en consultation avec les parents. Non, au contraire, moi je l'utilise aussi en séance, donc nous on n'utilise pas que les baby signs, on va utiliser par exemple le macaton, mais oui, ça va être vraiment un tremplin important qu'on va utiliser chez les enfants, surtout avec des retards.
Oui, ça peut être un peu comme un socle.
Tout à fait.
Ok. Alors, donc, avant la parole, finalement, puisque c'est pas le langage, mais avant que l'enfant parle, puisse produire des mots, des phrases, etc., j'imagine qu'il y a d'autres phases, étapes, en fait, qui sont intégrées, finalement, à l'acquisition du langage d'un point de vue général. Si tu peux faire un petit point du bébé, quoi, comment ça se passe, sa construction du langage, finalement.
Alors, le langage, déjà, on est baigné dedans in utero. Ça commence déjà à ce niveau-là. Et puis ensuite, bien sûr, à la naissance. À la naissance, on va être constamment entouré de stimuli et auditifs type bruit, et aussi, du coup, langagier. Et en fait, très vite, il y a beaucoup d'études qui montrent que très très jeune, alors les études, malheureusement, dans la recherche, on ne peut pas faire des études sur les nouveau-nés, c'est interdit, voilà. Par contre, on arrive à faire des études sur les bébés très très jeunes, et on a constaté, en effet, que les tout petits bébés arrivaient à distinguer les sons type bruit des sons type langage. Donc ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on est en fait vraiment pourvu génétiquement pour être attiré vers ces sons langagiers. Donc très vite, l'enfant va être baigné de ces sons-là. Et puis, c'est cette surexposition et répétée de manière régulière à des sons langagiers qui vont faire qu'un jour, l'enfant va pouvoir les produire aussi. Mais évidemment, je vous le disais tout à l'heure, le langage oral, c'est quoi ? C'est un système de communication. Donc quel est le prérequis au langage ? C'est le développement de la communication. Et c'est vraiment ça, notamment dans les retards de langage et de parole qu'on va regarder, c'est est-ce que les prérequis communicationnels pour que le langage arrive sont bien installés ? Est-ce que ces prérequis sont là ? Quels sont-ils ? Alors, il y en a un grand nombre. Maintenant, si je devais en énoncer quelques-uns, ça va être le contact visuel chez le tout-petit. Déjà, le contact visuel avec la maman chez le nouveau-né. Puis ensuite, ce qu'on va appeler l'attention conjointe. Donc, c'est souvent maman et l'enfant qui vont avoir leur regard dirigé vers le même objet en vue d'une activité ou d'un jeu ou de parole. Puis ensuite, on va avoir le pointage pour exprimer une demande, hein, c'est le début de la demande. Et ensuite, un babillage, souvent qui au début commence par ce qu'on appelle nous un babillage canonique, donc c'est le fameux ba 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 ba. C'est aussi un entraînement moteur en fait pour s'exercer à utiliser ses organes buccofonateurs en fait. Et puis ensuite, un babillage de plus en plus construit et complexe qui va suivre les contours mélodiques en fait du français, donc de la langue maternelle qu'il aura entendue encore et encore et encore. Et puis ensuite, souvent, on arrive... Alors, les gestes sociaux aussi qui arrivent, hein, les au revoir, bravo, il entend beaucoup et qu'on fait beaucoup aux enfants. Et enfin, les premiers mots qui arrivent. Donc, en fait, le langage va naître de l'envie de communiquer. Et ça, je crois que c'est vraiment... S'il y a un point à retenir, c'est celui-là. Parce qu'il nous arrive en consultation de voir des enfants avec des légers retards de langage, ou des retards de langage d'ailleurs, qui vont en fait arriver, le parent ne va même pas finalement laisser l'espace à l'enfant de faire des demandes. Tout va lui être donné avant même d'eux. Donc finalement, l'enfant...
Il n'a pas besoin. En fait.
Voilà, il n'a pas besoin. Il est un peu passif. Il se dit, bon, bah, ça vient à moi. Il est partisan du moindre effort, mais l'être humain fonctionne comme ça, en fait. Hein. Donc du coup, il va être question d'expliquer aux parents, non, on ne va pas laisser l'enfant arracher des mains pour prendre un truc. On va l'amener, c'est ça que tu veux ? Tu veux le biscuit ? Pour vraiment l'amener vers la demande. Donc la demande est vraiment le point clé de la communication, je dirais. Et cette demande se fait dans une dualité, hein, donc avec deux personnes. Et c'est pour ça que je crois que je vais le dire tout de suite. C'est pour ça que certes, le bain langagier va permettre à l'enfant d'apprendre ses premiers mots et à parler. Mais en fait, entendre beaucoup ne permet pas uniquement d'apprendre.
Oui, si on le met devant la télé.
Exactement,
il n'y a pas d'échange.
T'as tout compris, Alix, c'est exactement ça. Peut-être dans une autre de tes questions, ouais, je développerai plus ça, mais j'ai trop envie de le dire maintenant.
Je sens quel truc venir.
Exactement. Mais je développerai mon explication un peu plus tard.
Le langage,
c'est la communication.
Communication.
Et communication, il n'y a qu'avec une personne ou plusieurs. Voilà, il faut une interaction. Et puis, il y a peut-être un point auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'en fait, le développement du langage est très lié au développement moteur de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est allongé sur son tapis, n'a pas la même vision du monde et le même accès au monde autour de lui qu'un enfant qui fait du quatre pattes ou qui est debout. Donc, plus l'enfant va avancer au niveau moteur et plus il va avoir accès au monde autour de lui, et plus le parent va du coup parler de ce monde à son enfant. Et donc, le vocabulaire va aussi s'élargir à ce moment-là. Donc oui, les premiers mots apparaissent très souvent au même moment, quelques semaines après ou avant.
Autour de la marche,
tout à fait. Ou de la verticalisation, surtout.
D'accord. Ouais.
Voilà. Donc un enfant finalement qui est un marcheur très tardif, on sait que souvent c'est un peu un retard global à tous les niveaux, parce que ça va retarder le langage aussi.
Et c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, c'est un enfant qui, je repense, c'est un petit patient, c'est le numéro 3 d'une fratrie. Et en fait, la maman me dit, bah oui, bah moi, il parle pas du tout. Enfin, il avait, comme elle dit ça, je crois qu'il avait 20 mois, un truc comme ça. Elle me dit, mais d'un autre côté, en fait, il n'a pas besoin, ses frères, ils lui apportent tout.
Eh oui. Eh oui, oui.
Donc, ça vient pas forcément que du parent, il y a
non,
aussi,
non, bien sûr.
C'est de la famille, quoi.
Bien
c'est
sûr. Vrai que... Après, il y a aussi le caractère de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit que chaque enfant est différent. Donc, il y a des points qui vont nous inquiéter, voilà, mais si cet enfant de 20 mois se développe correctement dans tout le reste, et puis qu'il est en communication, c'est-à-dire que nous, ce qui nous inquiète, c'est quand un enfant, il n'est pas en communication. Après, je peux très bien être en communication sans véritablement être dans le langage oral, voilà. Et à 20 mois, c'est sûr qu'on attendrait que ça arrive, mais en fait, en quelques mois, parfois, ça... c'est des enfants parfois qui d'un coup vont parler, et les parents sont impressionnés, ils se disent « mais comment ça ?» On a commencé avec un petit mot, et là, on est à carrément une phrase.
Oui, comme si
c'est des explosions d'un coup. Ouais, voilà.
Comme s'il attendait un peu d'être prêt, quoi, d'être sûr, c'est bon.
Oui, c'est des caractères, voilà, y a des enfants qui sont un peu comme ça, en effet.
Pour la marche, je sais que ça arrive, c'est... et là, ils savent pas marcher, puis du jour au lendemain, quoi, ils savent marcher, ils y vont, en fait.
Exactement.
Ils attendaient d'être vraiment sûrs d'eux.
Ouais, ouais, c'est vraiment des tempéraments. Pour ça que, après, les normes, entre guillemets, c'est juste pour avoir une idée. Mmh. Mais nous, en tant que professionnels, après, il y a d'autres choses qui vont plus ou moins nous alerter.
Voilà. Alors, par exemple, en gros, à quel âge, j'en sais rien, parce que je sais qu'il y a le bilan des 2 ans avec les médecins, les pédiatres. Et à ce moment-là, alors, je ne sais plus exactement, mais ils demandent par rapport le nombre de mots, enfin, un certain nombre de mots à connaître, finalement, et à savoir produire. Est-ce qu'il y a un âge où il faut savoir. Un certain nombre de mots, ou un certain âge où il faut savoir dire, enchaîner plusieurs mots, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des étapes comme ça,
oui,
un peu repères?
Oui, oui, il y a des étapes clés, évidemment. C'est sûr qu'aux alentours de, voilà, on estime qu'entre 12 et 18 mois, l'enfant doit vraiment être rentré dans les premiers mots. S'il rentre pas dans les premiers mots, en fait, on va vouloir contrôler les oreilles, par exemple. On va vouloir contrôler les prérequis communicationnels, ce genre de choses. Puis si tout va bien, ben, on va attendre tranquillement, parfois ça arrive. Et puis, on sait, voilà, théoriquement, on appelle la phase des 24 mois l'explosion lexicale. On sait que c'est vraiment un moment où, justement, l'enfant va... On est assez impressionnés en tant que parents, d'ailleurs. C'est qu'on se dit, mais tous les jours, il me sort 5-6 mots différents qu'il connaissait pas avant. Et en effet, c'est vraiment un moment où l'enfant va apprendre tous les jours beaucoup, beaucoup de mots. Donc, va rentrer tout doucement dans des enchaînements, en effet, de 2-3 mots, des combinaisons de 2 mots, hein, papa-voiture, papa-voiture bleue, ce genre de choses. Et puis, voilà, arriver normalement à la maternelle, théoriquement, il devrait pouvoir faire des phrases simples, même avec compléments. On n'attend pas de lui des après que, oui, pourvu que, mais...
Il peut y avoir des petites erreurs de conjugaison, de...
Voilà,
et on comprend, quoi.
Je suis tée, comme dit mon fils de 3 ans et demi, je suis tée très fatiguée, maman, aujourd'hui, pour dire j'étais très fatiguée.
Oui,
voilà, ce genre de choses absolument normales. Mais c'est vrai qu'à 24 mois, il doit y avoir un petit... Aux alentours de 24 mois, je dirais. Il doit y avoir quand même un truc comme ça un peu explosif. Sinon, il faut peut-être aller justement consulter pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui entrave.
Oui, il peut y avoir quelque chose de médical, finalement. Il peut
tout
aussi
à fait,
pas très bien entendre.
Et il suffit de très peu, en fait.
Oui,
hein.
C'est ça.
Moi, je dis souvent aux parents, en fait, une baisse auditive vraiment 20 décibels peut avoir le même effet que moi en train d'apprendre le japonais en ayant la tête sous l'eau à la piscine. Vous voyez,
ouais, d'accord.
C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, par exemple, une otite séreuse un peu chronique, hein, qui peut arriver chez certains enfants, c'est des oreilles qui n'entendent pas parfois complètement bien. Et du coup, voilà, des enfants qui essayent d'apprendre avec des oreilles qui ne fonctionnent pas complètement comme il faut, en fait.
Si on n'entend pas, c'est difficile de retenir.
C'est un peu difficile. Tout à fait. C'est un peu difficile.
C'est sûr. Alors, une fois que bébé commence à dire quelques mots, il ne prononce pas tout correctement, évidemment, jusqu'à quand il va garder une prononciation pas tout à fait parfaite, on va dire. Parce qu'évidemment, un enfant, voilà, comme tu dis, ton fils, voilà, c'est des erreurs grammaticales, mais moi, je vois le mien 2 ans et demi, pour dire train, il dit crin. Enfin, voilà, d'accord, c'est bâtard. Enfin, voilà, il y a une petite modification comme ça, jusqu'à comment ça se construit phonétiquement, si tu veux. J'imagine qu'il y a un ordre dans lequel les sons vont être acquis, parce que certainement d'un point de vue difficulté, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Quelles sont un peu les étapes de ce point de vue-là, d'un point de vue phonétique? Et c'est vrai, voilà, son enfant qui a 4 ans, il ne sait pas dire le che, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Voilà, ça je sais que c'est une question qu'on pose souvent, qui revient
c'est
souvent.
La question. Alors, du coup, pour revenir un peu sur ce que je disais un peu précédemment, mais que je vais un petit peu mieux expliquer maintenant, ce qu'on appelle communément prononciation, c'est ce que nous, on va appeler articulation. L'articulation, c'est quoi ? C'est la réalisation motrice des gestes en vue d'un son. Des gestes de quoi ? Bah de nos organes bucco-phonateurs, qui sont, j'en cite quelques-uns, la langue, les joues, plancher buccal, la mâchoire, le vélum, enfin le voile du palais, le pharynx, le larynx, le diaphragme. Énormément de choses en fait à gérer pour pouvoir parler. Et du coup, l'articulation, c'est en fait organiser et gérer tout ça en vue de la production d'un son. Et en fait, c'est une réalisation très complexe. Voilà, bien plus complexe qu'on pense. Et l'enfant, finalement, c'est à force de dire, donc à force de réaliser ce geste moteur, qu'il va pouvoir affiner ses gestes moteurs et puis être de plus en plus à l'aise et mieux articulé. Voilà. Mais en effet, comme tu disais très justement tout à l'heure, on va passer par des étapes. Ça va pas se faire d'un coup. De la même manière que demain, je vais apprendre à jouer du violon, je ne vais pas du jour au lendemain jouer une symphonie. Vous voyez, je vais pas pouvoir. Pourquoi ? Parce que mon index, je vais devoir le mettre pour faire un la, je vais devoir le mettre sur telle corde, à tel endroit. Il va falloir que je m'entraîne en fait à mettre mon index exactement au même endroit à chaque fois. Et si je suis un tout petit peu en bas, bah en fait ça va sonner faux. Un petit peu en haut aussi, donc il faut vraiment que je sois ultra juste. C'est exactement pareil en fait avec la parole. Et du coup, c'est vraiment le fait de répéter, de s'entraîner qui va affiner cette articulation. Donc c'est une réelle compétence en fait, c'est une réelle compétence motrice. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui s'en rendent pas compte. Moi, je prends vraiment le temps de l'expliquer en consultation. Je leur explique, en fait, c'est de la même manière que quand un enfant naît, vous attendez pas de lui qu'il marche. Un enfant qui vient de rentrer dans le langage, vous pouvez pas attendre de lui qu'il prononce tous les sons parfaitement. Un enfant, pour arriver jusqu'à la marche, il va passer par plein d'étapes pour en arriver à contrôler son équilibre et à enchaîner les mouvements. Et on sait bien qu'un enfant qui vient d'apprendre à marcher, il est pas aussi fluide que ça dans sa marche. Un peu robot,
un peu bancal.
Un peu bancal, ça tombe, ça perd son équilibre, ça se relève et ça recommence. Et bien en fait, ça c'est ce qu'on va appeler la motricité globale, d'accord, de tout le corps. Et bien en fait, la parole, l'articulation, c'est une motricité non pas fine, mais ultra fine. C'est en fait la motricité la plus complexe que l'être humain sache faire. Donc il va falloir beaucoup d'années, en fait, pour te donner un chiffre. Il va falloir environ entre 6 à 8 ans, depuis la naissance du coup, pour que l'enfant non seulement imprime au niveau cérébral ses gestes moteurs, puis ensuite puisse les réaliser au niveau articulatoire.
Oui, que ce soit automatique.
Et que ça s'automatise, tout à fait, parce que dis-toi, si je peux te donner un exemple, on va prendre un mot. Je vais te prendre le mot bravo, d'accord ? Donc bravo, tu vas avoir le son B. Donc le B, ça va nécessiter une occlusion, donc une fermeture des lèvres, une bonne fermeture des lèvres, et ensuite une vibration des cordes vocales pour faire ton B. Il ne faut pas que ta langue elle, vienne gêner le passage. Ensuite, il va y avoir le R. Le R, c'est tout au fond de ta gorge. C'est un son guttural. Tout au fond de ta gorge, il va falloir faire vibrer tout ça. Ensuite, je vais devoir ouvrir ma bouche pour faire une voyelle. C'est une voyelle, t'as besoin de la vibration des cordes vocales, donc t'ouvres. Et la voyelle A, c'est plutôt une voyelle au milieu de ta bouche. Et puis ensuite, le V, tu dois positionner ta lèvre au niveau de tes incisives. Et attention, il faut préparer la suite parce qu'il y a un O. Et le O, c'est projeter tes lèvres en avant. Et pareil, tu dois faire vibrer tes cordes vocales. Donc, là, tu as plusieurs vibrations des cordes vocales, donc il va falloir que, en fait, tu contrôles aussi ton diaphragme pour gérer ton souffle respiratoire pour pouvoir dire ton mot en entier, parce que sinon, on aurait une parole un peu...
Voilà, ouais, ça fait un truc pas très compréhensible.
Et pas très relié, tout ça, pas très mélodieux. Donc, en plus, il va falloir gérer ta respiration. Donc, ça fait beaucoup de choses juste pour un mot. Là, tu n'as dit que bravo. Tu n'as même pas dit autre chose. Et dis-toi que ça, l'enfant, il peut pas le faire au début. Donc, qu'est-ce qu'il va faire un bravo au début chez un tout petit? Ben, mon fils qui a 1 an et demi, c'est ce qu'il fait. Il dit « avo ». Et même avant, c'était « ao ». Il y avait que les voyelles. Et ensuite, c'est devenu « avo ».
Il y aura « bavo ».«
Bavo ». Et ensuite, « bravo ». Sachant que le « br », c'est tous les sons complexes « br », « pr », « pl », « tr », « cr ». On sait que c'est des sons qui arrivent plus tardivement. Et notamment quand t'as, en fait, là, tu parlais de crin tout à l'heure, pour train. Là, tu vois, le T, c'est une consonne qui est très antérieure dans ta bouche, hein, très devant, et le R, très derrière. Donc, il faut vraiment un mouvement très rapide entre devant et derrière. Et ça, en fait, les enfants vont réussir à le faire en gagnant en rapidité, en précision. Donc, oui, le train devient crin. En fait, ils positionnent leur organe en arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils préparent le R d'après. Et comme il est dur à dire, ils privilégient celui-là, ils se mettent Ou sinon, chez d'autres enfants, ça va faire tin. Voilà.
Ils appellent.
Voilà, exactement. Mais oui, parce que en fait, les sons, ils s'influencent les uns les autres. Quand je dis le A de bravo n'est pas le même A que celui de râteau, etc. En fait, tous les sons vont s'influencer. Donc c'est un apprentissage énorme, en fait. Un apprentissage bien plus complexe que
qu'on imagine.
Exactement.
Et parce que tout nous aussi, on l'a acquis, c'est devenu totalement automatique. Je vois Margot, la grande, elle a 6 ans maintenant, elle arrive mieux, mais un peu typiquement l'histoire du che, du ze, enfin le je, elle disait un peu ze.
Oui.
En fait, si on lui demandait, si on la faisait se poser, on dit je, elle arrivait à le dire, mais dans une phrase, quand elle enchaînait, ça allait trop vite, donc c'était ze, ça allait plus vite.
C'est
puis,
ça.
Petit à petit, maintenant, elle dit je, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Parce que ce soit automatisé dans sa parole pour que ce soit fluide.
Oui, finalement. Il faut vraiment de l'entraînement, un entraînement isolé. Hein. Je joue mon violon toute seule chez moi et je m'entraîne à mes notes tranquillement et je suis en concert ou je suis devant quelqu'un, c'est plus la même chose en fait. Ouais, y a aussi des enjeux interactionnels. Nous, les adultes, on parle vite. Je parle vite avec mon enfant veut suivre mon rythme, il n'en a pas les capacités motrices au niveau articulatoire et du coup, il va s'en mêler plus vite les pinceaux. C'est aussi souvent ce qui se passe. Pour te donner un chiffre encore, parce que je trouve que ça parle bien, un adulte en moyenne dit 7 à 8 syllabes par seconde. Un enfant de 3-4 ans, c'est entre 3 et 4 syllabes par seconde. Tu peux encore être un peu moins chez un plus petit. Donc, si moi je parle à 7 ou 8 syllabes par seconde avec un enfant, tu peux être certain qu'au niveau articulatoire, ça va forcément pêcher à un moment donné. Il va pas pouvoir te suivre.
Ouais.
Et lui, ce qui est important pour lui, c'est pas qu'il articule bien, c'est de te transmettre un message. Peu importe comment il est transmis, tu vois, et ce qui est normal. Hein,
Oui, du moment qu'il a au but, le but final est atteint, il s'en fiche
exactement
de la forme.
Tout à fait. Donc oui, il y a des sons plus complexes. Tu me demandais finalement quelles sont les étapes. Eh bien, les étapes, finalement, on peut déjà très vite les observer chez les tout-petits. Quels sont les premiers sons qu'ils vont faire? Ce sont les voyelles. D'abord, les vocalisations. Voilà, on va vraiment être sur ça. Et puis ensuite, on va être sur toutes les consonnes qui vont être devant, en fait, au niveau des lèvres, hein, le P, B, M, c'est pour ça que maman, papa, c'est au top.
Ça tombe bien.
Voilà, ça tombe bien, mais je pense que c'est pas anodin. Et puis, ensuite, on va avoir les T, D, et puis c'est vrai que tout ce qui va être CH, J, Z, G, R, voilà, et un peu le L, ça va être des consonnes un peu qui vont fâcher. Et puis aussi, tu vois, si je pouvais rajouter quelque chose d'autre, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, finalement, l'articulation, c'est une compétence qu'on va développer à force d'entraînement, mais toute compétence peut être aussi entravée par plein de petites choses. Et là, c'est peut-être toi qui peux me parler en tant qu'ostéopathe
d'un point de vue mécanique, oui, c'est
voilà,
sûr.
La respiration buccale, une tension dans la langue, ou même un corps trop en avant, un corps trop en arrière. Un petit palais, pas de place pour la langue.
Oui, et puis il y a tout ce qui est physique, mais j'imagine que tout ce qui est aussi environnemental, un enfant, j'en sais rien, au moment où il y a le développement du langage, il y a l'arrivée d'un petit frère, d'une
exactement.
Petite sœur, il y a la séparation des parents, voilà,
évidemment.
Les événements de vie qui font que c'est un peu... Voilà,
on sait rien. Un déménagement, un deuil.
Voilà, tout ça, j'imagine que ça joue
évidemment.
Aussi, tout comme sur les autres acquisitions,
tout
en
à fait.
De
ouais, c'est... Le développement du langage, il n'est jamais isolé des autres développements. Un enfant, tu ne peux pas le voir sous l'étiquette du langage, et c'est peut-être ça qui est le plus complexe. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment travailler en coordination de soins. D'où mon envie d'être en MSP, ce que j'expliquais au départ exactement. C'est qu'en fait, tu peux pas travailler de manière isolée parce que parfois, en fait, on est sur des choses qui bloquent pas qu'au niveau langagier. Et en fait, moi, toute seule, je peux pas débloquer les choses. Il va falloir aller voir la psychomote ou parfois même passer la porte de la psychologue ou aller vers toi, une ostéopathe. Etc, etc.
Oui, et puis comme tu disais, vérifier les oreilles, parfois ça peut être l'orthodontiste.
Ou le pédiatre.
Ah oui, c'est global. Quoi.
C'est un
comme
tout.
Comme tu dis, c'est très fin. Il y a beaucoup d'organes qui sont impliqués dans la production du langage, donc forcément, faut vérifier un peu tout ça.
Exactement.
Mais pas que aussi.
Mais pas que.
La psychologue, comme on disait, s'il y a eu un deuil, quelque chose, il peut y avoir un événement.
Oui, et puis tu as des régressions dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire que parfois, tu as des effets plateaux ou des régressions. En fait, un enfant, ça se développe pas en... Comment je pourrais...
C'est pas linéaire.
C'est pas linéaire, voilà, je trouvais pas le mot. C'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, en fait, ça va se développer dans un domaine, et puis les autres domaines vont être un peu en stand-by, ou parfois même un peu reculés, naissance d'un petit frère ou petite sœur, ce genre de choses. ou un deuil, ou une maman qui n'est pas disponible psychologiquement parce qu'elle vit une période difficile, une dépression postpartum, ou je ne sais quoi d'autre. Oui, oui, c'est très en lien.
D'accord. Alors, comment on peut aider finalement son bébé, son enfant, pour qu'il développe au mieux son langage? Alors, peut-être pas le... Oui, plutôt l'aider que le stimuler, parce que j'avais écrit stimuler, mais finalement, c'est pas forcément une question de... Enfin, il y a de la stimulation, mais l'accompagner, en fait, tout simplement, dans son acquisition et dans son développement au niveau du langage et de la parole, parce que ça, on parlait, voilà, la télé, ça va pas rentrer...
On va en reparler.
Voilà. J'imagine qu'il y a d'autres choses. Comme tu disais, c'est la communication, donc j'imagine qu'il faut essayer de rentrer en communication déjà avec son enfant. Et voilà, certainement qu'il y a d'autres choses. Donc, voilà, comment on peut aider son bébé à, on va dire, prendre la bonne route, mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, quoi.
Bah, en fait, tu l'as déjà dit, hein. Stimuler, c'était bien. Alors, j'y rajouterais, moi, en tant qu'orthophoniste, j'aurais envie de dire stimuler. Enfin, nous, on parle de stimulation langagière, voilà. Mais si, si, stimuler, en fait, il n'y a pas de secret. Pour apprendre quelque chose, et là, pour le coup, apprendre à parler, il va falloir qu'on m'ait parlé. Voilà. Il va falloir que j'entende du langage, il va falloir qu'on m'adresse du langage. On va pas venir sinon, en fait. Donc, c'est un peu comme quand tu décides d'apprendre une langue étrangère, souvent les gens te disent « Ah bah, il n'y a pas meilleur moyen que d'aller dans le pays ». En fait, ça fonctionne exactement de la même manière avec le tout-petit. Avant que le mot sorte, l'enfant, il va vraiment avoir besoin d'être en contact avec le langage et avoir entendu les mots, les phrases, tellement de fois avant, vraiment un très grand nombre de fois, pour ensuite arriver à la production. Donc moi, pour rigoler parfois aux parents de mes petits patients, surtout quand je fais de la guidance parentale pour les plus petits, je leur dis, écoutez, je vais vous faire une ordonnance. Écoutez bien, d'accord, hein, et regardez ce que j'écris. L'ordonnance, c'est vous parler à votre enfant. Et vous lui parlez tout le temps, et même quand il est petit. Alors, quand je dis tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez décrire aussi les actions. Donne-moi ton bras, on va mettre le body. Allez, hop, on enfile le bras dans la manche et l'autre bras dans la manche. Et maintenant, on passe la tête. Oh, le petit bidou, oh, le bidou. Maintenant, ta jambe, etc., etc. Et en fait, c'est cette répétition des rituels du quotidien qui vont vraiment permettre à l'enfant d'accéder au langage. Comment il va le faire? Parce que je pense que comprendre la manière dont on arrive au premier mot, c'est intéressant. C'est de se dire qu'en fait, on a tous appris le langage par déduction, par des jeux de logique. Je vous donne un exemple. J'ai 9 mois, je suis sur mon tapis d'éveil, ou voilà, sur le tapis dans le salon. Maman arrive, et puis elle me tend un objet, qui est la tétine, et elle me dit blablabla, tétine, blablabla. Je prends la tétine, jamais dans ma bouche. Un peu plus tard, elle revient vers moi, elle me tend la main, et puis elle me dit blablabla, tétine, blablabla. Et elle me prend la tétine. Un peu plus tard, il y a papa qui arrive du travail, et puis et j'entends qu'il dit à maman blablabla, tétine. Et maman pointe la table basse du salon, et puis je vois ça. Et puis en fait, voilà, toutes les situations autour de tétine en contexte qui vont pouvoir se passer tout au long de cette période de l'enfance. L'enfant, en fait, il va déduire que bah, ça, c'est la tétine.
Il va faire des liens logiques.
Il va faire un lien logique. En fait, à chaque fois qu'il se passe, que j'entends ce mot-là, en fait, il y a cet objet-là. Donc, la tétine que j'entends à chaque fois. Sauf que là, tu vois, jusque-là, j'ai entendu la tétine. Donc, je pourrais penser que la tétine, c'est le mot. Et en fait, je vais devoir faire un autre travail de déduction logique. Et en fait, ah, en fait, le « là », là, je l'ai déjà entendu à chaque fois pour plein d'autres mots. Donc, c'est peut-être pas le mot, en fait. C'est peut-être un truc qu'on met comme ça avant le mot. Mais non, c'est pas le mot. Donc en fait, le mot, c'est tétine. Donc en fait, ce chemin-là, ça va mettre beaucoup de temps. Jusqu'à arriver vers un an à dire un truc genre in ou tichi, tichi. Donc mon fils de 18 mois, c'est plutôt titi, titi. Voilà, on en arrive à là.
En fait, c'est tout un chemin aussi intellectuel.
Cognitif.
On pense pas, qu'on imagine
non.
pas.
C'est un gros travail d'explorateur, en fait. Un réel travail d'explorateur. En fait, votre gosse, il fait un travail de fou.
Ouais.
C'est, on dirait pas comme ça, mais il travaille tout le temps. Donc, l'aider, ce serait comment? Bah, justement, comme je vous le disais, en lui parlant, mais c'est sûr, de manière adaptée.
Il faut parler, comme tu disais, pas trop vite non plus, parce que sinon, il n'a pas le temps d'intégrer, etc. Ça va trop vite. On parle plutôt, j'imagine, de façon... Pas en parler bébé, parce que ça sert à rien de lui parler à gueule, le bidou.
Tout à fait. Bah, ça va pas nous aider, hein. C'est pas les mots qu'il va entendre à l'extérieur.
C'est ça.
Maintenant, quand tu disais doucement, faut pas non plus être dans la surarticulation, parce que parfois j'ai des parents qui me disent « mais je parle doucement ». Alors là, non, je surarticuler, c'est pas naturel. C'est pas ce qu'il entend non plus. En revanche, parler doucement, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça.
Ouais.
Est-ce que tu veux ton biberon? c'est le biberon que tu veux ? Voilà, très mélodieux, un débit beaucoup plus lent, où je m'adresse à l'enfant, je me mets à son niveau, j'essaye de chercher le contact visuel, parce que ça va l'aider aussi à regarder mes lèvres, hein, pour imprimer le geste moteur, l'articulation.
Reformuler aussi. De
reformuler, bien sûr, notamment quand ils sont un peu plus grands. « Ah, maman, regarde le tracteur !»« Ah oui, le tracteur, le joli tracteur !» Je reformule, j'étaye. Puis les auto-verbalisations aussi. Alors moi, là, je vais mettre mon manteau. Et toi, tu mets ton manteau ? Toutes ces petites choses qui vont en effet aider l'enfant. Mais c'est en fait, apprendre à parler, c'est un énorme travail. Et je pense que c'est même pas comparable à apprendre une langue étrangère, parce que nous, on apprend une langue étrangère, mais on a déjà notre modèle de langue maternelle. Donc on a déjà finalement un système, tu vois,
de référence,
un système de communication déjà établi au niveau cérébral. Mais non, un enfant, c'est tout un travail de déduction. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais si tu devais apprendre le japonais ? Je pense que t'aimerais bien que quelqu'un te parle avec des mots simples,
ouais,
des phrases simples et doucement.
Oui.
Et ça, si t'es confronté à ça tous les jours pendant plusieurs mois, je suis certaine qu'à la fin, même en tant qu'adulte, où on n'a pas en effet la même capacité à apprendre, hein, et à imprimer aussi vite, eh bien tu serais capable de t'exprimer un petit peu en japonais en très peu de temps.
Mais si on est baigné dans la bonne façon, entre guillemets,
c'est de
présenter les choses, ça ouais, imprime plus facilement aussi.
Tout à fait, exactement. Si on te parle japonais très très vite, sans trop te regarder dans les yeux, en plus rappelle-toi, hein, t'es petite, t'as un an, hein, tu fais pas 1m70,
oui,
tu vois. Et puis le monde autour de toi, tout est adapté à un monde adulte. Donc et quand on te parle, t'as tout le temps la tête en surextension, enfin t'as tout le temps la tête en arrière parce que tout le monde est beaucoup plus grand que toi. Et tu vois pas bien, en fait, tu vois les choses d'en bas, hein, les lèvres aussi et tout. Bah forcément, ça peut mettre un peu plus de temps, tu vois. Ça va se développer, hein. Les enfants qui ont pas de problème particulier, même dans des environnements comme ça, ça va pouvoir se développer, mais ça va mettre un peu plus de temps, ça va être un peu plus compliqué. Puis il y a des enfants qui... Il y a des différences interindividuelles, c'est comme ça.
Oui.
C'est comme on disait tout à l'heure, on n'est pas tous pareils.
Il y en a qui marchent à 10 mois, il y en a qui marchent à 15.
Exactement, tout à fait.
C'est pareil aussi.
Exactement. On n'a pas tous exactement les mêmes facilités et c'est comme ça.
Grosso modo, si on peut reprendre, pour les parents, en fait, pour stimuler la stimulation langagière, donc on parle à son enfant, on lui décrit les choses qu'on fait avec lui ou nous qu'on fait, de façon un peu en se mettant à sa hauteur ou avec un... Pour les bébés, donc en cherchant un contact, parce qu'on va pas se mettre forcément au sol.
Oui, c'est pas toujours évident.
Voilà.
Oui, là, se rapprocher, tout à fait.
Effectivement, les grands, quand ils sont debout, pas hésiter à se mettre accroupis, quand
exactement,
on parle, ce genre de choses, et puis parler avec un débit raisonnable.
C'est ça.
Donc j'imagine que forcément, il y a des histoires, faire des comptines, toutes
évidemment,
ces choses-là, c'est des choses qui vont
tout à fait
aider.
Bien sûr, tout ce qui va être ritualisé, lire une histoire, pourquoi est-ce que ça va être intéressant ? Déjà parce que ça va être déjà une entrée dans le langage écrit. Hein, langage, rappelez-vous, système de signes qui est pas du tout comme, surtout en français, hein, qui est pas du tout comme le langage oral. Donc c'est aussi un autre apprentissage finalement, qui est pas complètement différent. Hein. On n'est pas sur des systèmes complètement différents, mais quand même, on parle pas de la même manière qu'on écrit et qu'on lit. Il y a des structures de phrases qu'on fait pas à l'oral et qui sont faites à l'écrit. Donc finalement, déjà, je prépare mon enfant à l'apprentissage de l'écrit par la suite. Et puis surtout, l'enfant va être confronté aux mêmes structures de phrases, aux mêmes mots de manière répétitive. Vous avez peut-être remarqué, mais vos enfants réclament toujours les mêmes livres, et toujours les mêmes jeux, et toujours les mêmes choses. Et ça ennuie l'adulte, mais parce que l'adulte, il sait y faire, il a déjà appris, c'est trop simple pour lui, mais sauf que l'enfant, il apprend. Et quoi de mieux que de refaire quand on est en apprentissage ? Ben, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc la répétition, reprendre le même livre et lui relire tous les soirs, bah vous allez voir, à un moment donné, c'est lui qui va vous lire le livre, connaîtra les phrases par cœur, et il apprendra du coup plein de mots, bah peut-être qu'on n'est pas confronté à une moissonneuse-batteuse tous les 4 matins, vous voyez.
Oui,
donc...
oui, il va pouvoir élargir un peu
élargir son champ lexical, tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà, donc en effet, ritualiser, je pense que ritualiser les choses pour un enfant, faire en sorte qu'il y ait un cadre, alors c'est bon pour tout et pour le langage aussi. Ça va permettre d'entendre toujours les mêmes structures et les mêmes mots au même moment de la journée. Et puis un jour, on va pouvoir les répéter du coup. On va être plus à même de les répéter un jour. Donc je parle, je me mets à sa hauteur, je ralentis mon débit de parole. J'évite de faire répéter mon enfant.
Si il prononce mal quelque chose, on ne reprend pas, on lui dit pas non, c'est pas comme
non,
ça.
Non, c'est pas comme ça, répète après moi. En fait, je dis toujours aux parents, mettez-vous à sa place et dites-vous que... Alors, on va reprendre l'exemple du japonais. Vous êtes au Japon, vous êtes débutant en japonais. Là, ça fait 6 mois que vous y êtes au Japon, donc vous commencez un petit peu à vous débrouiller. Mais votre prononciation, elle reste très sommaire, on va dire, et que l'interlocuteur en face de vous, vous avez envie de lui demander un truc. Mais en fait, tous les deux mots, il vous arrête pour vous dire « Non, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, attends, répète, parce que là, c'est pas comme ça qu'on dit. » Là, vous êtes en train de casser l'enfant, hein, au niveau de sa confiance en soi, et puis surtout, vous cassez la communication, en fait. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est important quand je parle? À quoi ça sert de parler? On l'a dit tout à l'heure, hein, à communiquer, à transmettre un message. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai très envie d'aller aux toilettes faire pipi, là. Donc, là, que tu me fasses te répéter 3 fois toilette et pipi, bah, j'en ai rien à faire, en fait. Clairement, c'est ça. Et c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on se dit, ouais, c'est vrai, c'est agaçant, en fait.
Oui, donc on le laisse finir et puis on reformule éventuellement.
Ça organise l'idée, la pensée de l'enfant aussi. On se rappelle quand même que le langage, c'est aussi, ça va permettre la structuration de la pensée en, parce que le langage nous sert aussi à réfléchir, hein. À réfléchir, à organiser, à structurer, à planifier, tout plein de compétences cognitives. Mais ça, c'est plus une neuropsy qui serait à même de parler de ça, mais en fait, c'est très en lien. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir des difficultés à ce niveau-là, mais parce qu'en fait, au niveau du... En fait, c'est
L'œuf et la poule,
voilà, c'est fait à quel moment, qu'est-ce qui a péché, qui a fait que, mais c'est les deux en même temps, en fait. Voilà. Oui, ça s'auto-nourrit. Oui, l'attention, la mémoire, la planification, l'inhibition, toutes ces capacités cognitives que l'être humain a vont se développer grâce au langage et avec le langage. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil de mon idée, mais grave. Tout ça pour dire qu'au final, le langage, c'est même pas juste de la communication, tu vois, c'est aussi la structuration de la pensée. Donc quand tu vas reformuler, c'est ça, j'ai retrouvé, en reformulant mon idée, ma phrase moi-même.
Comme quoi ça marche.
Et ben, en reformulant, tu vas aussi aider l'enfant à restructurer aussi sa pensée. C'est ça que tu as voulu me dire, parce que parfois l'enfant va être frustré, il va s'énerver. Et donc, ne pas hésiter aussi à lui poser la question. Moi, j'ai compris ça. Est-ce que c'est ça que tu as voulu me dire? Voilà. Et puis, rappelez-vous qu'à 2 ans et demi, 3 ans, parfois, vous pouvez faire un peu diversion, hein, quand vous voyez que ça s'énerve trop parce qu'ils savent, c'était pas ça qu'en fait je voulais dire et vous avez pas bien compris. Bah, c'est autre chose. C'est pas bien grave. Oh, regarde, super! J'ai vu un truc! Et puis, voilà. Alors, on le fait en ayant respecté, bien sûr, ce que l'enfant a voulu dire, mais si on est trop bloqué, on va pas insister.
Oui, ça sert à rien de se bloquer.
Non. Absolument pas, on va pas régénérer de la frustration. Ouais.
Alors ça, je t'avais pas évoqué, mais c'est en discutant, là, je me dis, pareil, si son enfant, par exemple, il y a des enfants qui peuvent bégayer un petit peu, j'imagine qu'un enfant qui bégaye, c'est pareil, on va pas lui dire, le faire reprendre son mot, ou lui dire ah non, enfin...
Oui, mais surtout pas, justement.
Voilà, c'est justement, on va faire pareil, reformuler un petit peu, laisser, tous les trucs et...
Alors, c'est vrai que pour les enfants qui bégayent, notamment, je veux dire, dans les débuts de bégaiement, mais même pour la suite, mais je veux dire les enfants préscolaires. Donc, avant... ce qu'on appelle préscolaire, nous, c'est avant 6 ans.
D'accord.
Parce que souvent, ça commence vers 3 ans, puisque c'est le moment où le langage commence à être plus ou moins bien établi. Donc, c'est là où le bégaiement apparaît quand il y a lieu d'avoir bégaiement. Pour les enfants préscolaires, oui, il faut surtout ne pas faire répéter.
Et donc, pour les enfants qui ont un bégaiement, le pire conseil?
Voilà, c'est, alors, peut-être pas le pire, mais celui qui est, entre guillemets, qui revient, ouais, chez quasi tous les parents, c'est calme-toi, respire. Alors, en fait, c'est souvent quand je dis aux parents qu'on va éviter de faire ça, c'est souvent très contre-intuitif. Mais en fait, le fait de dire ça, ça veut dire qu'on se focalise vraiment sur ce bégaiement, ce blocage, et sur la manière dont l'enfant va dire les choses, alors qu'en fait, si on se concentre juste sur le message et sur ce que l'enfant a voulu dire, ben, ça va passer plus facilement. Voilà. Et puis, calme-toi, ça voudrait dire quoi? Que je bégaye parce que je suis pas calme? Pas vraiment. Respire, ça veut dire qu'il a pas respiré, c'est pour ça qu'il bégaye? Pas vraiment. Donc finalement, on est en train d'indiquer les mauvaises raisons de ce blocage, donc ça n'aide pas l'enfant. Donc on continue à l'écouter, on se met encore plus en contact visuel, parce qu'il y a certains enfants qui vont justement commencer à dévier au niveau du regard. On cherche justement le contact visuel, on peut mettre une main sur l'épaule pour rassurer, pour lui dire qu'on l'écoute. Et puis quand on voit que ça passe vraiment pas, on va essayer de l'aider à formuler son idée, si on a compris l'idée. Et pour les plus jeunes, si on n'a vraiment pas compris, on peut essayer de faire diversion, si on voit que ça va pas générer de frustration. Voilà, c'est vraiment d'accompagner au mieux le message, je dirais.
Finalement, moins on pointe du doigt et moins on reste focalisé sur la difficulté.
Sur le blocage.
Enfin, sur le blocage, voilà.
Sans être dans un... C'est-à-dire qu'il y a des parents qui disent « Ah bah du coup, nous, on fait comme si de rien n'était. » Non, parce que ça, ça peut créer aussi une angoisse chez l'enfant. Finalement, il voit bien. Enfin, oui, il voit bien que ça l'embête, cette histoire-là. Ça sort pas, ça le frustre, justement, ça le gêne. Il voit bien dans les yeux de ses parents un froncement de sourcils. Il voit bien aussi l'inquiétude de ses parents. Donc non, on ne reste pas dans le tabou. Maintenant, ça peut être très bien de dire « Ah oui, en ce moment, j'entends qu'il y a des petites bosses dans ta parole. Moi, je continue à t'écouter, j'essaye de t'aider au mieux. » Voilà. Au contraire, ça détabouise un peu, ça déstresse grandement l'enfant. Et parfois, je suis un peu la fée magique, mais juste parfois une consultation. En expliquant ça aux parents et en parlant justement des petites bosses à l'enfant. Voilà. J'ai des petits bonhommes qui s'appellent Monsieur Boum Boum et Monsieur Whiz, qui sont copains, et il y en a un qui bégaye et qui a des blocages. Donc ça fait beaucoup rire les enfants souvent, et ça leur fait comprendre aussi qu'on a entendu, qu'il n'y a rien de grave, c'est pas dramatique, qu'on est là pour en parler, et ça dédramatise tout.
Ok, ça marche. On a tout à l'heure parlé un petit peu de ce qui pouvait aider pour le développement du langage, et ça vous a évité.
On y arrive.
C'est la question que tu attendais.
C'est la question. La fameuse. Ah ouais, j'ai très envie de commencer par les écrans, Alix, évidemment. Alors, en fait, déjà, j'ai quand même envie de te dire et dire à ton auditoire que je suis pas anti-écran, anti-télé, compagnie. C'est quand même, les écrans font partie de notre vie, notre quotidien, nous-mêmes en tant qu'adultes, hein. On va pas mentir et se mentir. Même moi, en tant qu'orthophoniste, je connais les méfaits, mais j'ai aussi mon téléphone dans la main. Et mes enfants m'ont déjà vu avec mon téléphone dans la main. Voient les gens autour d'eux avec des téléphones dans la main. Donc, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie. C'est un fait. Maintenant, on sait que c'est une entrave plus à l'entrée, non pas dans le langage, mais j'ai envie de te dire déjà, à la communication. Parce que quand je suis devant mon écran, certes, j'entends des mots, mais en fait, je peux pas faire ce travail de déduction dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas d'interaction, en fait. Je suis dans un schéma un peu passif. J'avale
des images,
des sons que je comprends pas toujours, en plus. Hein, des images qui vont vite, très vite, pour mon petit âge. Je suis pas capable de traiter au niveau cognitif et cérébral toutes ces images-là à la seconde. Il y a beaucoup de bruit. Je suis happée, hypnotisée par ce qui se passe, donc je suis très calme. Ça plaît à papa et à maman. Je peux pas dire que ça plaît pas, évidemment, hein, dans notre quotidien, parfois, c'est compliqué. Vous êtes tout seul avec vos 2-3 enfants, même avec votre enfant, vous devez faire
à manger,
faut le coucher tôt parce que demain on va à l'école, et du coup c'est un peu la panique à bord, donc qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mettre devant la télé, et c'est radical. Il pleure plus, il parle plus, on n'entend plus, je suis tranquille. Certes, mais les enfants, ce n'est pas la tranquillité, c'est antinomique, tranquillité enfant. pour rire un peu de la chose, mais c'est vrai que c'est confortable pour qui? Pour le parent. Je suis, encore une fois, pas contre les écrans. Je pense qu'un petit dessin animé pour un enfant de plus de 3 ans, un dessin animé 10 minutes ou 2-3 dessins animés, par exemple, le week-end, voilà, on fait 2-3 épisodes de 10 minutes, on fait 30 minutes grand maximum sur toute une semaine. Ça va pas être odieux, vous voyez, ça va pas être affreux. Maintenant, si on peut être un peu à côté,
accompagner,
voilà, pour après en rediscuter, parce que faut quand même savoir que, comme on disait tout à l'heure, l'enfant voit plein d'images, et parfois des choses vraiment anodines peuvent faire peur l'enfant et angoisser l'enfant. Je sais pas, moi, petit ours brun a perdu son doudou, c'est le dessin animé, et en fait ça, l'enfant va l'interpréter et va se mettre à la place de petit ours brun et va l'interpréter comme une chose dramatique. Pour vous, c'est un dessin animé, en fait, hein, c'est pas réel. Et lui, il a du mal à faire encore la distinction entre ce qui est pas réel et qui est réel. On va avoir l'impression qu'il l'a vécu, lui. Et du coup, ça peut créer et générer des angoisses. Donc, en reparler derrière, ça peut être une très bonne chose. En plus, ça y met du langage, du coup. Donc, pourquoi pas le faire en famille, par exemple. Maintenant, c'est à 3 ans, ça doit rester vraiment limité. Et ça doit pas être, en fait, je pense que... ça doit être de la même manière une activité ludique, de la même manière qu'on joue à un jeu de société ou on joue avec son enfant. Ça doit être un moment plaisant. Maintenant, ça doit pas être un moment qui doit me permettre d'avoir en fait du calme. C'est pas pour que l'enfant arrête de crier, pleurer, etc. Mais on a tous vu, hein, des parents qui donnent le téléphone avec un petit dessin animé quand ils font leurs courses ou dans la salle d'attente et compagnie. C'est pas une très bonne idée en soi. C'est une manière de
Mettre un stop, finalement, oui, de mettre de pas de le contrôler, mais de le... un peu quand même de... Oui, qu'il soit
oui,
sage, qu'il
voilà,
soit
c'est ça.
Hypnotisé.
Hypnotisé, voilà. Mais par ailleurs, c'est des enfants qui sont souvent beaucoup confrontés aux écrans, parce que ça, ça se répète beaucoup finalement dans notre vie. Aller faire des courses, être en salle d'attente, etc. Puis après, dans la rue, certains enfants ne veulent pas être dans la poussette, en fait. Donc, il y a des parents qui mettent le téléphone dans la main pour qu'ils restent assis dans la poussette, exactement.
Oui, et puis il y a aussi bah, tous les parents où avant d'avoir un enfant, finalement, ils rentrent à la maison, ils allument la télé, même si elle, on la regarde pas vraiment.
C'est ça, en fond d'écran. Sonore, en fond sonore, pardon, oui.
Voilà. Et puis, ils ont l'enfant, et puis l'enfant, même s'il est bébé, il va voir les images.
Et puis, dis-toi que là, il va voir les images, et puis il va y avoir ce bruit de fond. Et là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a ce bruit de fond, et dans ce bruit de fond, il va falloir que je détecte des sons langagiers et que j'apprenne tout ce qu'on a dit juste avant, tu vois. Donc c'est compliqué, en fait. C'est de la même manière, je te reprends l'exemple du japonais, t'apprends le japonais, mais il y a du bruit tout le temps autour de toi. T'es au restaurant, voilà. T'es en communication avec un japonais, là, il essaye de t'apprendre des mots. Ah bah t'es mal, hein. Il y a trop de bruit, en fait. T'arrives plus à... C'est vraiment dur. Comme, je sais pas si t'as fait l'expérience aussi, d'une langue que tu maîtrises peut-être un peu moins bien que ta langue maternelle, et en fait tu regardes un film à la télé dans cette langue-là, mettons l'anglais, et ben en fait tu vas mettre la télé bien plus fort, le son plus fort, en fait t'as besoin en fait de plus fort, pas parce que t'entends pas, mais parce qu'en fait il y a aussi un truc que, bon, j'en ai pas parlé, mais dans le langage, quand t'es très performant, ton cerveau en fait il va reconstruire les mots, c'est-à-dire que un peu comme à l'écrit, il y a plein d'études qui ont montré que
on lit pas toutes les lettres.
On lit pas toutes les lettres et pourtant on a lu le mot. Et que même si je t'effaçais quelques lettres, en fait, parfois on le détecte même pas. Et en fait, dans le langage, c'est la même chose. C'est pour ça que ça vous arrive parfois au téléphone de dire mais qu'est-ce que t'as dit? Et en fait, au moment où vous avez posé la question,
on sait ce que...
vous savez, voilà. Parce que vous avez eu juste besoin d'une demi-seconde pour reconstruire à l'intérieur. Vous avez eu, hop, le temps d'avoir deux, trois mots et reconstruire le truc et c'est bon. Et en fait, ce travail-là, t'arrives pas à bien le faire quand c'est pas ta langue maternelle parce que t'as pas l'expérience, en fait. Donc, t'as besoin d'un peu plus fort. Donc, okay. Tout ça pour te dire que le bruit de fond aussi de la télé va impacter, en effet. Après, les autres entraves, bah, ça va être, on l'a finalement déjà un peu dit, mais c'est le manque de stimulation langagière. Puis, les problèmes médicaux, hein, otite répétée, ça, c'est vraiment un truc qui revient beaucoup. Voilà ce que je peux te dire, ce qui me vient en tête.
Non, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Si, peut-être, si je peux te dire une entrave... Enfin, les gens souvent pensent que c'est une entrave, mais ça l'est pas, c'est le bilinguisme.
Oui, d'accord.
Voilà, donc le bilinguisme ne va pas gêner le développement du langage.
Ça se développe différemment, peut-être?
Alors, en fait, pas si différemment que ça. Plutôt, ça va mettre un peu plus de temps. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je suis en train de faire deux choses à la fois... plutôt qu'une. Mais en fait, l'enfant tout jeune, il va considérer que, mettons, un enfant franco-italien, bon là, le français et l'italien, c'est très proche, mais on va dire franco-japonais, allez, reprenons le japonais, il va, au début, estimer que tout ce qu'il va entendre, c'est une langue.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, à force d'interaction, il va comprendre, en fait, il va pouvoir dissocier et se dire, ah oui, ça c'est un système et ça c'est un autre système. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont faire des erreurs donc typiques du bilingue, qui vont vous parler en français et bam, un mot en japonais, ou qui vont s'adresser en japonais au mauvais interlocuteur, etc. Mais non, absolument pas, c'est une grande richesse le bilinguisme. Maintenant, il faut juste que ça soit correctement géré, on évite les mélanges franco-japonais dans la même phrase.
Oui, il vaut mieux qu'il y ait un parent,
ou alors une situation, une langue. Mais on évite de mixer les langues à longueur de journée parce que ça fait trop de travail cognitif pour l'enfant, il n'en est pas capable pour le moment.
Oui, ça va être par exemple à la maison on parle une langue et quand on est dehors on parle une autre.
Par exemple, après c'est pas aussi facile que ça. Mais oui, ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être une organisation celle-là. Après, il y en a plein d'autres possibles. Ça peut être si je suis à l'aise aussi bien en français qu'en japonais, ça peut être moi j'ai envie de lire mon petit rituel du soir, il se fait en japonais par exemple. Donc je lis mes histoires en japonais. Brossage de dents, habillage, tout ça en japonais. Mais par contre, là, le matin, je suis dans le rush et tout. Il y a mon mari qui est francophone. Bon, bah là, dans ces cas-là, c'est en français, par exemple. Enfin, je dis un truc au hasard, mais juste un truc un peu organisé, en fait, pour que l'enfant s'y repère. Sinon, ça fait ce qu'on appelle trop de code switching. Ça veut dire qu'en fait, il faut trop switcher entre le français et le japonais. Et ça, c'est dur. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vais donc passer... Eh bien, la petite question bonus que je pose à tous mes invités.
Bonus.
Ouais. C'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as un petit truc, un moment, une astuce qui te permet de recharger tes batteries en tant que maman, en tant que professionnelle, voilà, dans tes journées, dans tes semaines? Est-ce que tu vas faire ton sport et ça te fait du bien? Est-ce que tu te prends un bouquin? Est-ce que, voilà, est-ce que tu as ton petit truc à toi pour te prendre ton petit moment et souffler un peu et, pour mieux repartir?
Ouais, t'as raison, c'est une bonne question ça en fait. C'est une réelle question bonus, t'as raison. Alors, j'en ai pas, en fait, je crois que j'ai pas une réponse. J'en aurai plein parce que ça va changer par période. Mais je vais dire celle que j'utilise en ce moment parce que j'aimerais bien faire du sport. Je crois que c'est celle que j'aime le plus, celle-là, un peu me défouler physiquement. Mais en ce moment, je peux pas trop. Donc du coup, en ce moment, je prends la voiture pour aller au travail. Donc j'aime bien mettre la musique à fond et chanter. Très fort. Voilà. Et parfois même, je suis garée dans le parking et j'attends la fin de la chanson pour crier encore plus fort. Et ça me fait un bien fou.
Voilà. J'avoue que oui, ça défoule bien.
Ça défoule, ouais. Ou sinon, si je suis pas véhiculée, bah, dans ces cas-là, à pied, j'aime bien marcher et je me mets mes écouteurs. Et j'avoue, je fais un truc qui est pas très bien, mais je mets un peu plus fort le son. Ça abîme un peu les oreilles, c'est pas top, mais pour un petit laps de temps, un peu histoire d'être isolée de tout. Et alors, je peux pas crier, parce que les gens vont me prendre pour une folle. Mais ça me fait un bien fou. Voilà.
C'est un bon truc, c'est un bon défouloir, en tout cas.
Ouais, ouais, ça fait beaucoup de bien.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, et merci à Idil d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous espérons que vous repartez avec toutes les clés en main pour accompagner au mieux votre enfant dans le langage et lui permettre de s'ouvrir à ce nouveau monde plein de mots qui s'offre à lui. Comme d'habitude, quelques petits points qui semblent essentiels. Le langage, ce n'est pas juste parler, mais c'est un ensemble de schémas et de façons de fonctionner qui permettent de communiquer. Donc, pour favoriser le langage de votre enfant, il faut communiquer avec lui. Lui parler de façon assez lente pour qu'il puisse comprendre, essayer d'intégrer ce que vous lui dites, lui lire des livres, chanter des chansons, toutes ces petites choses du quotidien qui sont importantes dès le départ. Car oui, votre bébé très rapidement va rentrer dans le langage. Il va communiquer avec vous de façon non-verbale d'abord, puis de façon verbale. Pour favoriser une bonne acquisition, un bon développement du langage, Idil vous conseille donc de parler avec votre enfant, de communiquer avec lui, d'éviter les écrans. Car oui, il va entendre des mots, mais cela ne va pas développer son langage de la même manière qu'une conversation avec une personne. Pour finir, je laisse la parole à Édouard et Margot qui se sont prêtés à un petit jeu autour de la prononciation de certains mots. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos bouts de chou.
Magnifique.
Encore.
Aspirateur.
Aspirateur.
C'est petite. Bonnette.
Ça parle, Bopette.
N'hésitez pas à vous abonner et à partager.